Parole d'auteur.
Qui ne connaît Venise, son architecture originale et déroutante, ses musiciens baroques, ses peintres, qui ont su allier les élans des grandes compositions et le chatoiement des couleurs chaudes. Les noms de Titien, Véronèse ou Tintoret évoquent aisément le rayonnement de la sérénissime République. Mais nous connaissons moins les peintres qui les ont précédés et qui les ont pourtant formés, contribuant à la renommée artistique de Venise. En effet, l'esprit de la Renaissance italienne ne se limite pas à Florence ou Rome, et les noms des Bellini comme de Mantegna sont aussi importants pour l'histoire de l'art italien que ceux de Botticelli ou Raphaël. Aujourd'hui, chers et fidèles auditeurs, nous suivrons Yann Cuero dans sa biographie romancée de Giorgione, peintre vénitien de l'indicible, publié aux éditions Arcuiris. Giorgione est peintre majeur du début du XVIe siècle, mort à 32 ans, préserve une part de mystère, en particulier en ce qui concerne les sujets véritables de ses tableaux les plus célèbres. Donnez chair et vie à ce peintre disparu, donnez la pleine mesure de son travail et éclairez ses énigmes, voici la gageure que Yann Cuero a relevée avec succès. Bonjour Yann Cuero, avant d'aborder votre ouvrage Giorgione, peintre vénitien de l'indicible, publié chez Arcuiris, un bref rappel biographique pour mieux vous situer. Vous êtes né le 18 avril 1966 à Paris, vous passez une partie de votre enfance aux États-Unis, notamment au Nouveau-Mexique, près de Roswell, site de soucoupe volante, peut-être l'origine de votre fascination pour la science-fiction. Mais surtout, vous allez bientôt revenir en France et y mener des études.
Des études de beaux-arts, en fait, puisque j'étais passionné par l'art et j'ai donc été intéressé par la peinture et la sculpture, ce qui ne s'est pas fait sans mal, parce qu'en fait, je suis arrivé aux beaux-arts à une époque où il y avait un refus de la peinture, qui existe d'ailleurs potentiellement encore aujourd'hui, qui est problématique. Et donc, ça m'a tellement troublé que j'ai quand même étudié pendant plus de 4 ans, mais j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais perdu face à des enseignants qui me disaient « on ne peut plus continuer à peindre maintenant qu'on a inventé la photo ». Alors maintenant, je trouve ça absurde. Mais à l'époque, à 20 ans, ça m'avait troublé. Et j'avais découvert dans l'art contemporain les questions un peu plus de société, d'environnement, qui m'ont donné envie de reprendre d'autres études plus en sciences humaines.
Et c'est là donc que vous êtes intéressé en particulier à l'histoire et à la géographie.
Voilà, ça m'a fait m'intéresser à l'histoire, à la géographie, à la géopolitique, aux conflits et à des questions aussi d'environnement contemporain comme le réchauffement climatique. Donc des questions assez parfois angoissantes, enfin en tout cas qui interrogent sur l'avenir du monde. Et ça m'a ramené en fait à l'art d'une manière un peu surprenante, oui. Puisque j'ai eu envie, une sorte d'exutoire, d'écrire d'autres choses que sur des sujets de politique ou d'environnement, et de revenir à mes premiers amours, et notamment par une biographie romancée d'un grand peintre flamand du XVe siècle, Hugo van der Hoes, alors qui est un peu moins connu que Van Eyck et Van der Weyden, mais c'est un de leurs grands contemporains. Et donc, j'ai eu envie d'écrire une biographie romancée qui permet aussi de relativiser les malheurs d'aujourd'hui, puisqu'on peut découvrir que les massacres ou les guerres, oui. Et même parfois des tueries où des villes entières sont rasées, existaient déjà au XVe siècle.
Tout à fait, tout à fait. Et le dépassement aussi de tout ce climat anxiogène et de violence par l'art, en fait.
Voilà, absolument. Et par l'histoire, ce qui m'a aussi amené à écrire des romans religieux, enfin, ou en tout cas intégrant beaucoup de religions. Mon premier roman, par exemple, s'appelle « L'ère de Caïn », oui. Qui reprend justement le mythe biblique. Et j'ai écrit aussi « Un évangile selon Suzanne »,
oui,
où je parle d'une jeune juive qui vit à l'époque de Jésus, ou « Moi ou Mama, petite fille du prophète Mahomet », qui interroge aussi la place des femmes au début de l'islam.
Tout à fait. Donc, il y a aussi cette attention portée à la partie féminine, souvent à l'ombre des hommes.
Absolument. C'est vrai que
qui a aussi constitué l'histoire.
Qui ont constitué l'histoire, qui sont complètement occultées. Et il se trouve que dans mon parcours, j'ai aussi été élevé par des femmes fortes, ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et ça m'a aussi sensibiliser au fait que ces femmes fortes étaient souvent sous la coupe de leur mari, ou en tout cas n'avaient pas forcément toujours la même reconnaissance que leur mari, de même que la plupart des grandes femmes de l'histoire ont parfois été occultées.
Et donc vous avez mené cette activité d'écrivain parallèlement à une activité professionnelle riche et variée.
Voilà, alors ça s'est recoupé régulièrement, c'est-à-dire qu'au début c'était un exutoire, et puis en partant notamment sur des questions plutôt de mythologie ou de textes religieux avec des énigmes, donc un peu des côtés aventure, et puis quand on chasse quelque chose, ça revient par la fenêtre, mes préoccupations aussi justement un peu politiques ou environnementales reviennent aussi dans mes écrits, dans mes nouvelles, dans mes romans, parfois même dans mes poèmes, en faisant des clins d'œil aussi aux lecteurs et aux lectrices.
Et en effet, vous dites poèmes, nouvelles, car à l'heure actuelle, vous êtes l'auteur déjà de 15 romans, de nombreuses nouvelles et de poèmes de forme plutôt orientale.
Oui, alors c'est aussi parce que j'ai étudié les langues orientales, donc notamment l'indonésien et le malais pour travailler en Asie du Sud-Est, ce qui m'a sensibilisé aussi à d'autres cultures. Et ça, c'est aussi quelque chose que je mets souvent dans mes romans, c'est les différences culturelles entre les personnes. Alors, à la fois les personnes qui vont parler des langues différentes, mais même issues potentiellement de cultures différentes. Et les problèmes de compréhension qu'on voit dans le monde aujourd'hui, ils sont aussi issus de ce problème d'alterculturalité,
bien
du
sûr.
fait qu'il n'y a pas assez d'attention. Il y a souvent même une prédominance de la culture occidentale et pas assez d'attention aux autres formes
cultures.
De pensée et de culture.
Tout à fait. Et donc, vous êtes intéressé, comme vous le disiez, à la science-fiction, à tout ce qui pourrait être projection d'un imaginaire, aussi au monde religion. Et vous avez remarqué effectivement l'histoire de la peinture qui est un de vos points de départ, en fait, pour l'écriture. Donc, Giorgione est votre troisième biographie de peintre.
Oui.
Donc, après Hugo van der Hoos, dont vous venez de nous parler, ainsi que du maître de Moulin. Et avec Giorgione, nous quittons la peinture du Nord pour découvrir Venise, Venise au XVIe siècle. Venise qui est un monde politique et social extrêmement dynamique et original à l'époque.
Oui,
à l'époque de Giorgione.
Absolument, puisque l'Italie elle-même est assez différente du reste de l'Europe parce qu'elle est très très morcelée, et en plus Venise est une des seules cités-États qui n'est pas dirigée par un prince. Donc le
Tout
prince, il pouvait être des ducs, des comtes, etc., mais qui était désigné par Dieu. Donc, il y avait des lignées héréditaires. Or, Venise est la première république, de l'époque moderne en tout cas, ou du Moyen-Âge, et qui est dirigée par des marchands.
Tout à fait.
Qui ont une autre approche que les seigneurs nobles.
Tout à fait. C'est une approche beaucoup plus pragmatique. Ils aiment l'ordre. Ils sont attentifs à la gestion du quotidien. Ça, vous en rendez bien compte dans votre ouvrage autour du peintre Giorgione, puisque vous nous décrivez toute cette vie sociale, les règlements, tous les types de... par exemple, pour le ramassage des ordures, ou la législation assez précise et détaillée sur la prostitution.
Oui, c'est vrai que le doge et le conseil de Venise étaient très attentifs, à la fois parce qu'il fallait qu'ils fassent attention vers l'extérieur aux menaces potentielles, et aussi à l'intérieur pour que tout fonctionne bien. Et notamment, c'est Venise qui va inventer un peu le travail à la chaîne. ou en tout cas pour à l'arsenal avec la construction de galères. C'est comme ça qu'ils vont avoir une flotte aussi puissante sur toute la Méditerranée à une certaine époque.
C'est-à-dire que les artisans, chaque artisan avait sa pièce à réaliser et ne faisait qu'elle ou comme
C'est-à-dire qu'ils avaient inventé le système des pièces détachées.
D'accord.
Alors qu'auparavant, les armateurs, chaque bateau était fait individuellement, donc chaque bateau était unique. Et à partir du moment où il était unique, il était difficile à réparer
parce qu'il
fallait refaire les pièces. Là, toutes les pièces étaient interchangeables parce que l'arsenal de Venise avait donc inventé ce système de pièces de rechange et de normes très, très strictes pour que toutes les, c'était surtout des galères, toutes les galères soient identiques.
Tout à fait, et puis c'est réparé facilement, et puis ça allait beaucoup plus vite, en fait, tous les avantages que l'on connaît maintenant.
Oui.
On connaît surtout les inconvénients, mais...
oui.
Et puis il y avait effectivement aussi des quartiers réservés.
Voilà,
Alors, ces quartiers réservés permettaient aussi de contrôler les étrangers. C'est à la fois une ville très cosmopolite, et où en même temps, il faut faire attention pour ne pas se faire... piller les idées
c'est
pour
vrai.
contrôler aussi
Alors
tous les
voilà,
étrangers.
et d'ailleurs, j'aime bien, je m'en lasse, mon côté universitaire, je fais toujours des cartes, et j'ai des cartes aussi dans mes livres, autant
Bien
que je peux,
sûr.
pour essayer de montrer les différents quartiers, et notamment pour Venise, montrer, il y a les quartiers du pouvoir avec San Marco, Saint-Marc, il y a l'arsenal qui est le côté militaire, et puis il y a le quartier du Rialto, par exemple, où là, ce sont plutôt les banquiers, mais aussi les artistes, mais aussi des prostituées. Et puis, alors c'est un petit peu légèrement plus tardif que mon roman, puisque ma biographie romancée de Giorgione s'arrête en 1910 à sa mort. Mais.
Non,
1510, pardon, 1510, 1510, à sa mort. Mais donc, il y a déjà quasiment le ghetto, puisque le
c'est ça.
ghetto et le fait de créer des quartiers spécifiques pour les Juifs vient aussi de Venise. Et donc, ghetto vient même d'un mot vénitien qui était la fonderie, et qui est créé un petit peu plus tard, mais qui existait déjà
On
à
en
cette
sent les
époque.
prémices dans votre roman. On sent qu'il y a une législation tout de même. Ils sont tenus à un certain nombre de choses. On voit que c'est pas toujours facile. Ben, Giorgione a des commandes pour des fêtes pour des juifs,
Des juifs, enfin, en tout cas
des
certains
marchands
tableaux.
juifs. Et il n'y a pas de souci. Il est possible de les faire, etc. Mais il y a quand même des contraintes. C'est
Voilà,
pas.
et par
Mais
exemple, à l'époque où Giorgione travaille, les Juifs n'ont le droit de résider que quelques journées par an à Venise.
oui, c'est
Donc, ils
ça.
doivent rester sur terre ferme, donc la partie continentale de Venise, et ils ont le droit de venir quelques jours par an pour faire des affaires, mais ils sont très contrôlés. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique le marchand de Venise
Bien sûr, de Shakespeare.
de Shakespeare, où il présente justement là, un peu cette caricature d'usurier juif qui s'en prend à un marchand vénitien. Et ça, c'est aussi un peu l'époque
Tout à fait.
qui veut ça.
Mais il y a d'ailleurs la même chose. Enfin, il y a le quartier juif, il y avait aussi le quartier des Allemands. Enfin, chacun avait un petit peu
Voilà, il y
sa zone
avait les...
d'influence. C'est une république qui est consciente de ses fragilités géophysiques, puisqu'elle est vraiment très liée à la mer, ce qui implique un certain nombre de rites, le mariage annuel avec la mer, un mariage symbolique. C'est une ville qui est en vigilance perpétuelle, mais donc ça implique aussi un travail de tous les habitants, quelque part.
Oui, parce que, et alors ça, c'est aussi l'intérêt de travailler sur des biographies de peintres, c'est que les peintres, à l'époque, étaient des artisans. Ce
Tout
n'étaient
à
pas
fait.
vraiment des artistes. Enfin, ils pouvaient avoir un début de reconnaissance, mais ils étaient assimilés quand même aux gens du peuple. Et donc, en fait, à la fois, ils côtoient les hauts dignitaires, les évêques, les nobles, les très, très grands marchands fortunés, mais ils sont aussi... De par leur travail, en contact avec les petits commerçants ou avec les autres artisans qui vont fabriquer la toile ou le
Bien
bois quand ils
sûr.
vont peindre, les pigments dont ils vont avoir besoin.
Et effectivement, ce statut de l'artiste nous amène aussi à constater combien Venise, comme beaucoup de villes en Italie, a repéré très tôt je dirais, la plus-value que pouvait donner l'art. C'est-à-dire, l'art est à l'époque un instrument de pouvoir, soft power, on dirait maintenant, dont les communes italiennes ont très vite perçu l'importance, en fait. Et Venise aussi, très nettement. Donc, ça se traduit par des commandes, des commandes publiques.
Voire des invitations à rester. Par exemple, Albrecht Dürer,
oui,
qui a fait deux séjours à Venise, qui sont assez bien documentés. Lors de son dernier séjour, le Doge est prêt à lui accorder une pension pour que Dürer s'installe et travaille à Venise.
Tout à fait. Mais c'est une république dynamique, cosmopolite, avec beaucoup d'influence orientale aussi. Mais c'est une république qui est très convoitée. Et ça, votre livre le montre très bien. Vous arrivez à décrire de manière à la fois détaillée et claire des situations qui sont extrêmement complexes, voire confuses, puisque finalement, l'Italie, à l'époque, chaque ville italienne, même pas l'Italie, puisque ça n'existe pas vraiment, mais chaque ville italienne est l'objet de convoitises françaises, allemandes, papales, en fait.
Oui, avec le pape Borgia, et son fils César, qui a servi d'ailleurs de modèle au prince de Machiavel.
Oui, tout à fait.
Donc, on est vraiment une période charnière de l'histoire. Et c'est très important aussi de montrer, justement, parce qu'il y a à la fois toutes ces rivalités de puissance européenne, et puis il y a la menace turque, qui
c'est
est toujours
ça.
présente. Et alors, directement pour Venise, puisque, justement, les Turcs convoitent les îles grecques, Chypre, sur lesquelles les Vénitiens sont installés. Et les Vénitiens sont aussi aux premières loges, les premiers directement en contact et potentiellement en conflit avec les Turcs. Et donc, ils sont obligés de faire des accords, plus ou moins secrets, avec les Turcs, et ils sont stigmatisés parfois par les autres puissances européennes qui considèrent qu'ils vont trop loin dans le compromis et dans l'arrangement, alors que les chrétiens devraient se liguer tous contre les Turcs. Mais d'un autre côté, toutes les autres principautés n'arrivent pas à s'entendre justement pour mener cette grande croisade. Et il faudra attendre la bataille de
Lépante,
Lépante,
oui.
quand même bien, bien longtemps après, plus d'un demi-siècle après, pour qu'il y ait un semblant d'alliance occidentale contre les Turcs.
Contre les Turcs, oui. Et c'est vrai que votre livre montre bien ce que ça a représenté pour les personnes de l'époque, en fait, une tension permanente. Beaucoup de deuil, beaucoup de, il y a des, beaucoup, dans la, ne serait-ce que dans à travers la vie de Giorgione, il y a beaucoup de moments où ils ont l'impression que ben, tous leurs efforts de l'année sont brisés, leurs amis sont faits prisonniers, maintenus en otage par les Turcs, réduits en esclavage. Enfin, c'est les fêtes sont annulées. Donc, qui dit fête annulée ou foire annulée, dit rentrée d'argent en moins. Enfin, on voit très, très bien, grâce à votre écriture, tout l'impact que peuvent avoir ces disputes qu'on a vues dans des livres d'histoire et auxquels on a prêté parfois une oreille un peu distraite.
Bah, je pense justement le fait de le voir à travers la vie de quelqu'un permet de lui donner une consistance, une vie, et de la rendre plus directement intéressante.
Tout à fait. Nous allons peut-être avoir une petite pause musicale,
Oui,
si cela vous va. C'est vous qui l'avez choisi. Et donc, il s'agira d'un morceau de Bartolomeo Tromboncino, Chi vi darà più luce.
Thank you. d'auteur.
Après cette première pause musicale de Bartolomeo Tromboncino, qui vit dalla più luce, nous reprenons notre échange avec Yann Cuero autour de son ouvrage Giorgione, peintre vénitien de l'indicible, aux éditions Arcuiris. Donc nous avons vu un petit peu le contexte social, politique, général qui entoure la vie de Giorgione à Venise. Et il est important maintenant de voir un petit peu quelles ont pu être ses aspirations, ses sujets, ses contraintes. Et une chose nous frappe immédiatement, c'est le rôle omniprésent de la religion. Alors, la religion est à l'époque maîtresse du temps, en particulier.
Voilà, alors là, c'est vrai qu'on ne réalise pas forcément toujours, mais il y avait beaucoup plus de jours de congé à l'époque que maintenant. Il y avait un quart à un tiers des jours qui étaient des jours de fête religieuse, et les ordres religieux, les grandes églises ou les grands dignitaires de l'église commandaient. Bien sûr, des peintures qui pouvaient être des fresques ou des peintures sous forme de retable pour orner les églises.
Bien sûr. Alors, il y avait également, par exemple, dans votre livre, Giorgione, sa journée de travail est rythmée aussi par la cloche. Quel que soit l'endroit où il est, il entend cette cloche qui va marquer le début du travail, puis la fin aussi de la journée. Avec un temps qui n'est pas comme le nôtre, qui est un temps beaucoup plus élastique. Les heures d'hiver sont plus courtes que celles d'été.
Enfin, voilà, mais un temps très cyclique. Et c'est ça que j'ai essayé de rendre, et qu'on connaît encore un petit peu à Venise, parce qu'il y a des temps forts comme le carnaval. Mais le carnaval n'est qu'un des multiples moments qui allait segmenter. Et en fait, la segmentation se fait dans la journée, avec les cloches qui vont effectivement marquer, et notamment les deux grandes cloches de Saint-Marc et du Rialto qui marquent le début et la fin de la journée, et puis toutes les cloches correspondant aux messes intermédiaires. Il y a les marées aussi qui sont très très importantes, puisque les marées permettent notamment d'aller jusqu'à terre ferme, donc le continent, ou de revenir vers les îles que constitue Venise, puisqu'il n'y a pas encore de pont, bien sûr, à l'époque. Et il y a l'hiver avec le vent froid,
très froid,
qui change aussi et qui oblige à avoir toutes les cheminées à Venise. Et puis, donc, il y a tout le cycle de la semaine avec le rituel des marchés, de la collecte des déchets, du jour de paye de l'arsenal, des réunions du Grand Conseil. Donc, tout ça va rythmer la semaine. Et puis, l'année avec toutes ces grandes fêtes, souvent
Alors,
religieuses.
Alors, des grandes fêtes religieuses qui sont donc effectivement les Noël, Pâques, les jours fériés pour les fêtes des saints. Venise a été très précautionneuse puisqu'elle a quatre saints protecteurs. On sent qu'il y a du danger, donc il y aura quatre saints qui vont pouvoir protéger la ville. Donc il y a Saint-Marc, il y a Saint-Roch pour la peste, qui est l'un des grands fléaux auxquels est confrontée Venise.
Alors en fait, le premier,
comme
le premier
le continent,
c'est
Saint
Théodore, en fait, le premier, mais en fait c'est un saint byzantin. En fait, surtout avec la montée de l'islam et la volonté d'exister, et après la prise de Constantinople, Venise a tout fait pour minimiser l'importance de Byzance, donc réduire le poids de Saint-Théodore, et à la place, donc faire monter Saint-Marc, l'évangéliste, et ensuite, quand il y a eu les épidémies de peste, San Rocco, dont Saint-Roch, dont ils ont fait venir les reliques de Montpellier, ils les ont même dérobées, pour pouvoir protéger la ville. Et d'ailleurs, Giorgione a réalisé une peinture pour une commande donc de San Rocco pour représentant Jésus. C'est une peinture assez dure d'ailleurs, c'est Jésus face à des Juifs qui l'agressent, et donc on sent un peu au moment du procès sans doute, et mais c'est une peinture qui va avoir la réputation d'être miraculeuse. Et donc,
encore du vivant de Giorgione.
Les gens allaient à San Rocco pour toucher cette peinture et espérer être guéris.
Oui, ce qui nous montre que, effectivement, l'Église a un rôle prépondérant, mais il reste encore beaucoup de superstitions, en fait.
Ah oui.
Il y a la manière dont on aborde la religion n'est pas tout à fait la même que maintenant. Il y a un côté encore très superstitieux, très populaire aussi, des croyances populaires. Et ça nous amène aussi à voir quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est-à-dire à la fois la permanence de certains rituels et en même temps un attrait pour les sciences, l'astronomie, la physique, enfin tout ce que
oui.
C'est le moment de c'est le début de certaines grandes découvertes scientifiques.
Absolument.
Qui va côtoyer, ma foi, la superstition.
Et on le voit
complètement
à Venise, effectivement, et particulièrement à ce moment-là, puisque il y a notamment une prédiction d'un deuxième déluge. Et donc, dans des almanachs, il y a des astrologues qui ont annoncé qu'il allait avoir un deuxième déluge qui devait se situer à la fin de l'année 1503. Donc, tout le monde a peur de l'arrivée de ce deuxième déluge, un peu le millénarisme. Et en même temps, à cette époque, il y a un moine polonais quasi inconnu qui vient étudier à Padoue. Il s'appelle Copernic. Et Copernic, donc... très très jeune, donne des cours, et donc vraisemblablement, Giorgione a assisté à un cours qui est attesté dans les archives de Copernic devant les universitaires de Padoue.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est intéressant de voir, justement, vous détaillez bien ceci dans votre ouvrage. On voit bien comment Giorgione est à la fois un manuel, c'est à la fois quelqu'un qui est pratique, un génie pratique, qui doit tenir son entreprise, il broie les couleurs, enfin, il les applique et tout ça. Donc, il y a ce côté manuel, mais il y a aussi tout un côté intellectuel qui est un peu... largement favorisé par ses mécènes, mais qui témoigne aussi d'un goût personnel. C'est évident qu'il était attiré par tout ce qui pouvait intéresser son intellect.
Et on le voit d'ailleurs dans les fresques qui subsistent à Castelfranco, qui est sa ville de naissance. Il y a la Casa Giorgione, et il y a encore donc une fresque, un bandeau en haut d'une pièce. Et alors c'est en couleur sépia, ça représente l'univers de la musique, de la peinture, des arts. Et aussi des études de l'astrologie. Et notamment, je reproduis dans le livre, parce que un de mes soucis, ça a été de reprendre, il y a plus de 80 illustrations, de reprendre toutes les illustrations, toutes les œuvres qu'on pouvait lui attribuer. Alors, les historiens de l'art ne sont pas tous d'accord sur quelles œuvres sont à rattacher à Giorgione, parce qu'il y a eu des repeints, il y a eu des imitations. Mais en tout cas, là, on voit, il y a notamment un disque. Et ce disque représente des étoiles. On pourrait croire que c'est anodin, mais c'est la conjonction planétaire qui annonce en fait le déluge.
Donc, tout à fait.
Tout est très, très précis, très, très détaillé. Et c'est aussi ce qui a amené beaucoup de troubles chez les historiens de l'art, c'est que Giorgione a semé ces peintures d'énigmes.
Tout à fait.
Et beaucoup étaient encore, restaient encore mystérieuses. Et c'était un des défis de mon livre, d'ailleurs, d'essayer de décrypter, parce que je peux difficilement parler d'un tableau présenté par George John lui-même, puisque c'est George John le narrateur, si oui. je ne donne pas les clés, si je ne trouve pas les clés. Donc j'avais un défi
Vous
qui
aviez
était
un défi important. Là.
Important pour...
Défi d'ailleurs, oui, vous n'êtes pas que vous assumez courageusement, parce que beaucoup de tableaux de Giorgio ont été comme ça l'objet de beaucoup de questionnements. Donc les historiens d'art, ils vont avec beaucoup de précautions, ils avancent un peu leurs pions, mais en général, ils ne prêtent pas parti. Or vous, quelque part, vous avez mouillé votre chemise puisque vous assumez vos hypothèses en les prêtant à George John. Mais ça fait partie du jeu.
C'est une hypothèse. Les chercheurs aussi font des hypothèses. Là, moi, j'avance hypothèses et j'essaye d'aller toujours au plus plausible. C'est-à-dire que je cherche à montrer... parmi les possibilités, puisque parfois je peux hésiter ou avoir des doutes, qu'est-ce qui s'est passé ou quelle est l'explication la plus plausible à un phénomène ?
Tout à fait.
D'auteur.
Après cette deuxième pause musicale, qui était de Jospin Després, Adieu mes amours, nous reprenons notre discussion avec Yann Cuero autour de son livre Giorgione. Peintre vénitien de l'indicible aux éditions Arcuiris. Nous étions en train d'évoquer le monde de George John et en particulier le côté énigmatique de ce monde.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs de ces tableaux qui ont laissé, qui ont interloqué les historiens de l'art, puisqu'il n'y a pas les clés, et notamment il y a deux célèbres tableaux qui sont les trois philosophes et la tramontane. Donc les trois philosophes, on voit un vieux monsieur qui est souvent identifié à Ptolémée, mais on n'est pas forcément sûr, un personnage en costume turc et un jeune homme. Et en fait, donc, la plupart des historiens, ils sont allés de deux propositions. Et en fait, pour moi, Ptolémée est exact. Le personnage turc qui est au milieu, c'est Ibn al-Shatir, qui était un astronome arabe. Dont s'est inspiré le troisième personnage, qui est Copernic.
Donc, oui, tout à fait.
Ce qui me fait justement dire que Giorgione a dû assister à cette conférence donnée par Copernic à l'université de Padoue à cette époque. Et ça fait complètement sens que ces trois personnages sont en face d'une grande caverne, qui est un peu la caverne de Platon.
Bien sûr.
Et là, donc, les trois philosophes sont articulés. Pareil, par exemple, il y a un autre tableau qui s'appelle La Tramontane, donc où on voit un grand paysage. Et dans ce paysage, il y a trois ou quatre personnages perdus. Il y a un personnage tout au milieu qui est en train de terrasser un dragon. Donc, la plupart des gens pensent que c'est Saint-Georges. Et ils voient à côté, donc sur la gauche, un autre personnage qui est en train d'aider ou de soigner un autre. Et puis, dans une grotte, au fond, un homme avec un cochon. Donc, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont les quatre saints de Venise. Donc, celui du milieu, donc ce n'est pas Saint-Georges, Saint-Dragon, mais Saint-Théodore.
Le premier
qui était le saint. Les deux à gauche, c'est donc Saint-Marc qui s'approche de San Rocco. Donc, le deuxième protecteur de Venise qui vient accueillir le troisième. Et dans une grotte au fond, c'est Saint-Antoine de Padoue. Parce que Venise, dans ses conquêtes de terre ferme, donc sur le continent, avait intégré Padoue, donc se retrouvait avec un quatrième saint protecteur par conquête.
Tout à fait. Et donc on a vu effectivement ces énigmes, on les retrouve également dans La Tempête. Il y a eu plusieurs livres consacrés au sens qu'on pouvait trouver à La Tempête. C'est aussi pour le concert champêtre. Vous nous donnez une explication qui est tout à fait plausible et qui regroupe d'ailleurs certaines des explications qui ont été proposées.
Oui, je prétends. D'ailleurs,
ce qui est intéressant, excusez-moi de vous couper, parce que ce qui est intéressant dans vos explications, c'est que elles sont. Nous pouvons suivre leur genèse. Ce qui n'est souvent pas le cas dans les ouvrages d'histoire de l'art, où on a souvent l'impression que les auteurs plaquent un jugement ou une explication. Mais là, le lecteur est amené, en fait, à la suite de Giorgione, à comprendre le raisonnement de Giorgione, les associations d'idées qu'il fait, etc.
Oui. Et là, par exemple, sur le tableau des quatre saints de Venise, la Tramontane, je le fais présenter justement, c'est-à-dire c'est le commanditaire du tableau qui invite
tout à fait,
Vénitiens.
C'est une très jolie scène d'ailleurs.
Voilà,
de votre livre.
Qui, parce qu'il a commandité à Giorgione, alors là j'invente un peu forcément, ou j'essaye de déduire, un tableau qui montre l'esprit de Venise, et au lieu de montrer une scène de Venise, il montre ce tableau complètement énigmatique, et donc ce sont les invités qui vont commencer à essayer de proposer des solutions pour savoir ce que ça veut dire.
Mais d'ailleurs, c'est tout à fait l'esprit du temps. Hein. Là, vous n'êtes... Vous extrapolez peut-être un peu, mais vous êtes tout à fait dans l'esprit du temps. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la reine de Chypre, qui était l'un des premiers commanditaires de Giorgione, mais votre livre fait bien état de cette... Il y a toute cette cour autour de la reine de Chypre, et qui est une cour savante, proche de celle qu'on pouvait trouver dans plein d'autres villes italiennes. Et vous rendez bien, je trouve, cette effervescence intellectuelle, ce goût pour les lettres classiques, le retour de la mythologie gréco-romaine, ces joutes oratoires, ces échanges de poèmes, etc.
Absolument, et c'est vrai que c'est aussi l'apparition ou l'essor de la langue dite vulgaire, donc de l'italien qui se forme avec les différentes langues régionales du toscan, du vénitien, avec la référence de Dante, qui est quand même le premier à l'avoir vraiment introduit en poésie, mais des personnages comme Pietro Bembo, qui sont un peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont eu un rôle complètement majeur. Et c'est aussi une des propositions du livre d'identifier qui est peint. Parce que souvent, c'est une des difficultés, on voit un portrait, on voit deux portraits, on voit trois portraits, et on se lasse, parce que si on ne sait pas qui est représenté, et souvent, ça n'est pas indiqué. Donc, j'ai fait un gros travail aussi de recherche, éventuellement comparant avec d'autres portraits existants, où là, les personnes sont identifiées, pour essayer de savoir qui Giorgione avait pu peindre.
Oui, ça c'est l'une des effectivement, vous asseyez sur une énorme source, sur un énorme travail de recherche, qui est un travail qui est plutôt, que d'habitude, est plutôt du ressort des universitaires. Et c'est une démarche de votre part intéressante que de vouloir finalement ouvrir toutes ces recherches sur une forme qui est plus accessible à un grand public. Vous auriez pu vous contenter d'écrire une énième thèse sur Giorgione.
J'aurais pu.
Et voilà, et c'est intéressant. Je crois que vous avez le choix du roman. Vous avez sûrement quelque chose à nous dire là-dessus.
Voilà, alors c'est périlleux. C'est périlleux parce que, en fait, je sais que je porte le flanc au reproche de dire bah oui, mais c'est pas un livre d'histoire de l'art, c'est un roman. Et de fait, je ne donne pas forcément toutes les clés. C'est-à-dire, je pourrais avoir tout un appareil de notes en disant ça, c'est telle anecdote, elle est vraie, ou telle chose, ça vient de telle source bibliographique. J'ai tout ça, mais j'ai essayé de le faire disparaître pour en faire un vrai roman. Et c'est ça qui est délicat, en fait.
C'est délicat et vous y arrivez en faisant plusieurs choix. Donc déjà, le choix d'une narration à la première personne, nous sommes, dès le début du livre, nous sommes Giorgione. Nous écoutons Giorgione, nous nous mettons dans la peau de Giorgione. Et ce qui contribue à donner de la vie à toute la description des faits qui sont présentés. J'ai trouvé qu'il y avait aussi un côté cinématographique, en fait. Parce qu'à la fois, donc nous voyons à travers les yeux, nous travaillons à travers les mains de Giorgione. Et en même temps, de temps en temps, il y a un dézoomage qui est mené très subtilement et qui va nous présenter le contexte politique ou social de manière plus générale. Et puis, très progressivement, on revient à Giorgione. Donc, il y a une grande fluidité dans ce que vous écrivez, et ça a dû être un gros travail pour vous.
Oui, surtout pour faire disparaître le travail.
Tout à fait. C'est-à-dire
qu'il faut... souvent, un des reproches que je ferais à beaucoup d'historiens de l'art, c'est qu'ils sont trop attachés à l'œuvre elle-même et à la description éventuellement de la peinture, sans forcément suffisamment apporter d'importance au contexte politique, voire guerrier, dans lequel ces œuvres ont été faites. Et donc, on a l'impression que le peintre était dans son atelier, tranquille, alors qu'il pouvait être dans une période de guerre, avec un blocus, avec... une épidémie de peste, ou souffrir lui-même de la syphilis.
Comme c'est le cas pour Giorgione.
Donc, il y a aussi un contexte qui peut être complètement dramatique et qui aussi nourrit, ou en tout cas...
Un contexte dramatique ou tout simplement économique. La peinture, c'est un travail, un atelier est une entreprise. Et ça, justement, vous le montrez très bien. Il y a aussi, dans votre écrit... des moments d'humour et des clins d'œil au lecteur. Vous n'hésitez pas de temps en temps à faire quelques anachronismes qu'on ne vous reprochera pas parce qu'ils sont, ils sont humoristiques.
Oui.
Il y a par exemple un moment où un des spectateurs de tableau de Giorgione ont fait des spéculations sur son sujet et le spectateur dit « Bon, de toute façon, c'est bien difficile de comprendre l'art contemporain. »
Voilà.
Mais c'est tout à fait possible. C'est à la fois un clin d'œil au lecteur moderne.
Mais
à l'époque, c'était de la peinture contemporaine et effectivement, elle posait question.
Voilà, parce qu'en plus, la peinture de Giorgione, on ne réalise pas forcément aujourd'hui parce que on a toute l'histoire de l'art qu'on connaît. Mais,
Elle était moderne.
Il était très, très moderne. Et
tout
notamment
à
par rapport à son maître Giovanni Bellini et à ses contemporains, donc comme Carpaccio ou Mantegna. C'est le premier peintre à peindre directement sans dessin.
Tout
et
à
donc
fait.
avec la couleur, et c'est ce qui donne aussi la force de beaucoup de ces tableaux, c'est que il ne dessine pas ou très peu en sous-jacent. Donc il attaque directement
À la couleur.
À la couleur, au pinceau, et ça c'est complètement moderne par rapport à tout, enfin ou Botticelli, etc. Tous ces peintres qui dessinaient beaucoup plus, ou Léonard de Vinci.
Qui était dans la ligne, et c'est cet héritage-là que va magnifier Titien, et puis en plus après Tintoret.
Tintoret, et Titien qui est l'élève
de John.
Alors, George Donne, on le connaît moins parce qu'il est mort très jeune et donc sa carrière s'est arrêtée brusquement. Titien, lui, a vécu beaucoup plus longtemps et a eu l'œuvre monumentale qu'on connaît, mais ou en tout cas à la période charnière dans les années 1508-1510, même aujourd'hui encore, et moi-même je l'avoue humblement, c'est difficile de séparer le style de Giorgione de la fin de sa vie et du jeune Titien.
Du jeune Titien, forcément.
Et notamment le concert champêtre qui est au Louvre.
Est attribué
parfois à Titien, parfois à John, parfois aux deux.
Et
personne n'en est vraiment sûr.
Mais non, c'est un travail d'atelier, c'est une entreprise. Et
c'était aussi, c'est aussi important de montrer qu'il y avait tout ce travail d'atelier, c'est-à-dire que l'artiste n'était pas un solitaire, comme il l'est devenu à l'époque contemporaine.
Un dernier point. Votre ouvrage est aussi complété par un nombre considérable de reproductions.
Mm-hmm.
Donc, vous avez fait pratiquement un catalogue complet de l'œuvre de Giorgione, et donc des photographies qui ont dû demander un énorme travail de recherche et d'obtention de droits, voire de gymnastique, puisqu'il vous est arrivé de sauter des barrières pour aller photographier des fresques en ruine.
Voilà, donc il y a certains, notamment les fresques du palais en ruine de la reine de Chypre, qui sont encore dans l'arrière-pays vénitien, sont fermées. Donc il a fallu que je saute par-dessus des barbelés et des ronces pour pouvoir aller prendre des clichés
de ce qui restait
et des fragments de fresques qui sont d'ailleurs remarquables. Et puis après, les droits qui ne sont pas évidents, parce que c'est vrai qu'il y a des musées qui sont vraiment formidables, qui, quand on les compte, disent très bien, on vous envoie une image à haute définition,
et puis d'autres
qui rechignent ou qui vont demander jusqu'à 200-250 € pour reproduire une peinture.
Image. Oui,
donc
ça.
Quand on en a Giorgione, il y en a 80.
Oui, c'est ça.
c'est
un poste important.
Un poste important.
Il faut saluer les éditions Arcuiris pour d'avoir fait cet effort-là, parce que ça peut être rare. Il nous reste quelques instants pour vous remercier, Yann Clairaut. J'espère que vous avez pu dire à peu près tout ce que vous souhaitiez. Quand nous avons préparé cette émission, nous avons discuté pendant près de 3 heures, donc c'est un résumé que nous avons tenté de faire. Merci donc pour tout ce que vous nous avez appris au sujet de Giorgione et de Venise au XVIe siècle. Il nous faut aussi signaler la parution de votre dernier livre, qui est consacré en 2 tomes, qui est consacré à Lavinia Tierlink, femme peintre des Tudors, également aux éditions Arcuiris. Donc c'est un ouvrage qui s'annonce passionnant.
Ah oui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de femmes peintres. C'est la première femme peintre de l'époque moderne dont l'œuvre avait été complètement oubliée, avait disparu. Et là, c'est arrivé à faire ressortir, à prendre parmi tous les tableaux anonymes, essayer d'identifier ceux qu'elle a pu peindre. Donc à l'époque des Tudors, puisqu'elle a vécu entre Henri VIII et Élisabeth Ière. Et elle a même été peintre royale. Donc elle avait un certain statut, mais son œuvre a complètement disparu. Donc là, j'essaye de la faire revivre avec la 150 œuvres.
Vous avez fait un magnifique travail dont on parlera peut-être une autre fois.
Volontiers.
Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Présence et en podcast sur toutes les plateformes numériques. Au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine émission.